Ces événements se déroulent entre midi et 13h.
Bah quoi? On peut se faire une jolie intro? Oui, enfin presque. Hein. Nous sommes le samedi 29 septembre 2007 et nous avons été exclus de la radio. Bonjour et bienvenue. Bah ouais, il n'y a pas d'identifiant de la radio pour le coup. Bonjour et bienvenue, nous c'est le supplément week-end comme à la maison, puisque la direction de Radio FMR nous a formellement interdit de faire notre émission aujourd'hui. Et ben nous la faisons à domicile pour ne pas léser nos amis auditeurs du podcast. Alors, liste des présents, Xavier, ouais c'est moi, Thomas,
c'est moi,
présent, du sport, excusez, flémite aiguë, doublé d'une vexation, ah bah tiens tu m'étonnes. Et en plus de cela, on a des amis qui sont venus. Bonjour Manu.
Salut.
Il y a un autre micro, hein, je rappelle. Salut Sabrina.
Salut.
Bonjour Enflammé. Non, non, pour faire plus fort.
Ah, voilà, c'est un petit peu mieux.
Allez, je lance.
Je lance la vidéo pour ceux qui ne l'avaient pas vue. C'est en guise d'introduction, donc c'est l'invitation à une partie de Demo Maker hongrois. Voilà, on expliquera pourquoi on passe ce genre de musique. Extrait de l'invitation à la démo partie The Function qui a eu lieu en Hongrie le week-end dernier. Donc c'est une démo partie, c'est une invitation en fait des mecs qui démontrent qu'ils savent faire de super jolis trucs avec un ordinateur et en programmant comme des malades. Faut dire donc que cette émission donc n'est pas diffusée à la radio, donc on a les inconvénients de ne pas être diffusé à la radio, on peut pas passer de la musique comme on veut, c'est-à-dire que tout le répertoire SACEM, on n'a pas le droit. Heureusement, on a Internet sous la main, donc musique libre de droit et tout le reste.
Oui, nous n'avons pas précisé dans quelles conditions nous enregistrions cette émission quand même.
Voilà, on enregistre en chambre, si je puis dire. On est au centre du cœur nodal de la production du supplément week-end.
Nous sommes dans le QG d'un geek. Donc nous sommes entourés de sa bibliothèque complète, sa discothèque également.
Ouais, enfin la moitié de la bibliothèque, l'autre est dans l'autre pièce, mais on peut galoper, ça tombe très bien. Donc si jamais il y a une hésitation quelconque, non seulement on peut chercher dans la Wikipédia ou dans IMDB ou quoi que ce soit, attention Thomas là, tu vas être fliqué, mais en plus eh ben, on va pouvoir chercher in situ et fesser avec une pelle à l'antenne. L'appel est planqué derrière dans le réduit du couloir. Voilà. Enfin bon, ceci dit, donc aujourd'hui, on a le malheur de faire l'émission comme on peut, qui sera rediffusée théoriquement en cours de semaine.
Rediffusée.
Oui.
À l'antenne.
À la FM, ouais.
D'accord.
Tous ceux qui nous écoutent en podcast l'auront eu en avant-première pour une fois.
Oui.
Voilà. Et puis dans les conditions techniques, pour une fois, on ne peut pas se plaindre des émissions d'avant. Mais de mes capacités absolument pitoyables pour réaliser.
T'attendais que je te contrôlise. Mais non, vous aviez enfin. Non, voilà. C'est pas vrai.
Je vous remercie. Sinon, parmi les news. Rapidement, dans les news de cette semaine, on avait reçu Didier Passamonique par téléphone, producteur délégué de Actua BD, à propos donc de l'affaire Tintin au Congo. Donc, je rappelle donc qu'il y a une personne qui s'est sentie fortement offensée par rapport à une bande dessinée qui a été publiée en 1931 et qui ne trouvait absolument anormal que cette BD existe encore et soit encore en vente et souhaitait la faire interdire. Comme on l'a déjà expliqué, c'est une personne qui, expliquait clairement pourquoi elle le faisait, qu'elle ne s'attendait absolument pas à ce qu'il y ait autant de bruit, qu'elle le faisait aussi en partie parce qu'il était étudiant en droit. Donc, selon les chiffres de vente, le Tintin au Congo ne s'est jamais aussi bien vendu depuis le début de la polémique. Et Louis Delasse a ainsi affirmé à le président des éditions Casterman qui publie donc la série Tintin, a affirmé à Actua BD de la série, c'est le titre qui se vend le mieux. En temps normal, cet album se vend à 40 000 exemplaires chaque année en France. Et comme quoi, hein.
Est-ce que c'est celui qui se vend le mieux en temps normal ou bizarrement à cette époque?
Alors ils disent mais il s'est toujours très bien vendu, etc. On n'en sait pas plus. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que justement afin d'apaiser un peu la situation, on rappelle qu'il y a eu des attaques aux États-Unis, en Angleterre, donc en Belgique et maintenant en France, puisque le MRAP aussi a lancé là-dessus une procédure. Et il y aurait une notice qui serait en cours de négociation entre Casterman et Moulin-Sarr-SA représentant donc les intérêts des héritiers d'Hergé et donc à partir de là il faut expliquer que en 1931 Hergé étant issu quand même d'une certaine bourgeoisie dans un état colonialiste et tout ça, il voyait ça comme ça à l'époque, rien de bien méchant quoi. C'est vrai que une fois qu'on a revu les cases quand même on s'étonne effectivement, mais c'est des choses qui sont du passé. Hier au Brésil, c'était le branle-bas de combat chez les opérateurs d'électricité puisque c'était le dernier épisode de Tropical Paradise, la telenovela la plus suivie au Brésil, sur la chaîne la plus suivie au Brésil qui fait 90% d'audience, Télé Globo.
Ah oui.
Ah oui, on trouve que TF1 avec 35% c'est un monopole. Rigolons un peu. Les autorités craignaient une coupure générale électrique, ils craignaient un effondrement en fait du réseau d'électricité. À cause de la fin de l'épisode, il craignait tout simplement une surconsommation au moment du générique de fin, quand tout le monde va rallumer les lumières, ouvrir le frigo pour boire une bière et allumer le micro-ondes pour mettre dedans, le William Sorin. Bon, alors, je vais couper court quand même au suspense, je vais vous dire ce qui s'est réellement passé. Eh bien, Teresa, la jolie esclave mulâtre, a succombé au charme de José, le cruel et démoniaque fiston de l'empereur de la canne à sucre, qui se trouve être en fait son frère, suite à une liaison du père avec Dolores, la très entreprenante gouverneuse. D'accord, vous en foutez.
Sport racontait beaucoup mieux les sopes hollandais.
Hein. Oui, je sais, mais ça c'est brésilien.
Ah,
et portugais, c'est un peu dommage.
Igno.
Voilà. Et puis sinon, drame de l'internet, j'ai eu le malheur de laisser un message sur un forum de geek qui est assez connu qui s'appelle Slashdot. Une blague à deux balles, c'était sur les priorités du FBI et combien d'agents sont sur les missions en fonction des priorités. Donc j'ai dit la priorité numéro 11 c'était chasser les ovnis et qu'ils avaient deux agents dedans. Et il y a quelqu'un qui m'a répliqué, bah ça tombe bien, ils sont en train de préparer le film qui aura lieu après la série X-Files, donc c'est pas une blague.
Le deuxième film.
Voilà, est bien prévu pour 2009 et son titre sera Untitled X-Files Sequel. Non, à mon avis, c'est un titre de travail. Hein.
Oui, 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 tout à fait.
Donc voilà, c'était des news à la con. La bande son derrière, c'est extrait du label Tokyo Down, qui est en fait, ça aussi, c'est des demo makers européens, contrairement à ce qu'on laisse présager le titre. On va commencer sortie de bande dessinée avec, je le montre, de la chaussette, les démons d'Alexia. Oui. Le tome 4 qui est arrivé, c'est toujours Hers et Dugommier qui ont fait Boulon le robot. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était une araignée robot, ça sortait chez Le Lombard et on l'a trouvé pas mal d'illustrés pour enfants. Ça marchait plutôt bien et là ils avaient complètement changé de registre donc avec cette série, les démons d'Alexia. Le quatrième tome, ça s'appelle Le Syndrome de Salem, vient de sortir chez Dupuis, prépublié dans Spirou, ce qui étonne un peu quand même quand on voit la violence du truc. Note, vu qu'ils ont publié Soda, ça ne m'étonne pas trop. Et Alexia, eh bien, c'est une jeune exorciste qui est entrée au centre de recherche des phénomènes surnaturels. Alexia avait découvert qu'elle était en fait la descendante de Sarah Perkins, la dernière sorcière de Salem. La seule sorcière justement de toutes les filles qui ont été pendues, qui n'a pas été réhabilitée. Donc celle sur laquelle il y a vraiment un doute comme quoi elle aurait été sorcière. Et du coup se retrouve l'objet de la haine du directeur Stumpton, descendant lui du juge William Stockton qui avait attisé cette folie à l'époque. C'était à la fin du 16e siècle, quelque part dans le Massachusetts, pardon, 17e. Oui, je me suis planté. Elle hésitait entre sa vocation d'exorciste et son héritage de sorcière. Elle tentera l'impensable, concilier les deux. Entrée dans cet endroit mystérieux qui est Yortopia, Alexia se rend vite compte que l'endroit est extrêmement hostile pour elle. Le pays de la magie, grand coffre-fort de tous les secrets de la magie, de la sorcellerie, de l'alchimie, la démonologie, est en train de la tuer dans le plus grand calme. Si un mystérieux ange gardien n'était pas là pour la nourrir, la lignée des sorcières de Salem serait déjà éteinte. Le voyage initiatique sera éprouvant et ne la laissera pas sans séquelles. Et rien ne va plus au CRPS. Paolo Calpadi semble être beaucoup plus qu'un démon. Bérénice est séquestrée par Stumpton qui va avoir un fils d'elle. Le lieu semble aussi joyeux qu'une géole au temps de l'Inquisition. Voilà qui va éclore le premier cycle et pas en douceur. Alors, dans la première édition donc de ce quatrième tome, tout à la fin, il y a un dossier documentaire. Alors le documentaire, je vais le mettre entre guillemets, même si ça s'entend pas à la radio, mais ça se verra sur le net. Il y a du vrai, il y a peut-être du faux, c'est assez rigolo en fait. Ils ont dit, oui, il y a une sommité du vrai CRPS qui écrit dedans, qui explique donc ce qu'est que la véritable étude de la sorcellerie et tout ça, qu'il y a une véritable institution scientifique derrière. Alors il faut chercher le vrai du faux. Il y a beaucoup d'inventions, à mon avis, dedans, parce qu'il y a des bouquins qui sont cités dedans, je ne les ai pas retrouvés, dans aucune notice ni quoi que ce soit. Mais en tout cas c'est assez amusant parce que justement on retrouve l'ambiance, il donne des faits historiques qui sont réels avec un éclairage assez intéressant sur les sorcières de Salem et à partir de là ben justement on se plaît à consulter dedans et du coup ben, on a envie de relire ce quatrième tome qui est quand même assez éprouvant, c'est vraiment un album d'atmosphère. Parce que donc, y a Alexia qui se retrouve dans cette dimension parallèle. On ne sait pas exactement ce qu'est Yortopia, mais elle se retrouve dans un endroit où il ne se passe rien et où elle meurt à cause des forces qu'il y a dedans. Et elle ne sait pas exactement pourquoi. Du coup, ben, on en apprend un peu plus sur l'usage des runes, sur certaines symboliques que l'on retrouve dans la BD, des fois juste en graffiti. Et on a vraiment envie de refaire les 4 premiers tomes, et ça marche très très bien pour ça. R.C. Dugommier, ce sont les auteurs donc des Démons d'Alexia, le 4e tome, ça s'appelle Le Syndrome de Salem, et c'est sorti chez Dupuis. Allez, quelque chose un petit peu plus joyeux, toujours en bande dessinée franco-belge. Il s'agit de Cosmic Roger, des deux mots, et de CDM. Cosmic Roger, le tome 5 vient de sortir et s'appelle Les 12 travaux de Cosmic Roger. Il vient de sortir donc chez Flic Glacial. Face à la colère des nouveaux dieux, aux confins de l'espace et du temps, un homme se dresse et va commander une bière. Alors ça, c'est ce qu'il y a en quatrième de couverture de l'album, et c'est exactement ça. Donc le pitch est relativement simple. Suite à une explosion de la population humaine sous le règne de la terreur des producteurs de films porno et des ligues pro-life, anti-avortement et anti-protection, la Terre est complètement saturée d'hommes et de femmes. Cosmic Roger a été choisi suite à une longue présélection de télé-réalité pour être expédié dans l'espace afin de trouver une planète propice, habitable et surtout non occupée. Et ça fait des années que ça dure, à tel point qu'il en déprime au comptoir du bar, le rendez-vous des anneaux. Donc je vous rappelle qu'on avait prouvé dans cette émission que Cosmic Roger, en fait, c'était plus ou moins l'incarnation de Valérian. Valérian et Laureline. Si vous regardez bien, Manu, t'as les Valérians qui sont juste derrière toi. Troisième étagère, en dessous, voilà, à gauche, voilà, ouais, on est en direct, hein, dans les conditions du direct, plus exactement. Et ben, quand vous regardez bien le costume de Valérian, c'est exactement... Il le voit pas, hein. Au-dessus...
Tu vas y arriver,
voilà. Je les vois d'ici. À gauche. Voilà. Là, c'est un Valérian, ça, non?
Les aventures d'Hergé.
À droite.
Il vient de prendre un album d'Hergé.
Non, juste à droite, à deux bouquins à droite de là où tu l'as pris, l'autre.
Là où tu l'as pris, voilà.
Donc, c'était une mauvaise idée, il ne faut pas donner d'indication pendant le direct, voilà.
Oh, tu as réussi à attraper un Valérian.
Surtout que c'est pas l'un où on voit justement, où on le voit en costume spatial. On s'en fiche des aventures de Black Jack. Donc, si on regarde bien, l'un comme l'autre, en fait, Cosmic Roger, la caricature de Valérian, et c'est justement ce délire autour d'une certaine science-fiction qui est montée en épingle par Mo et CDM. C'est complètement nonsense, et ça marche très très bien, puisque donc on voit le soi-disant sauveur de l'humanité qui se vide un godet au lieu de se tirer les doigts du cul et aller chercher une planète disponible pour toute l'humanité. Et même en consultant les petites annonces, d'ailleurs il y a tout un épisode où il consulte les petites annonces pour chercher une planète pas chère. Parce que je vous rappelle une chose, c'est que quand même c'est pas évident de trouver une planète qui est libre, habitable et sur lequel le loyer est pas cher pour y mettre toute l'humanité. Donc forcément c'est un peu chaud quoi. Enfin la moitié de l'humanité, l'autre moitié reste sur Terre, on séparera les deux. Et de ce côté-là, c'est quand même, ça envoie pas mal. Néanmoins, je tiens à dire une chose, l'album s'appelle Les 12 travaux de Cosmic Roger, mais le titre est complètement mensonger. Il n'y a que 9 aventures dans l'album. Et alors si, je sais pas ce qui s'est passé chez Fluide Glacial, mais si vous croyez sincèrement que dans le flot de la rentrée littéraire, ça allait m'échapper, surtout que vous le soulignez en page intérieure que, c'était complètement loupé. Cosmic Roger... Les 12 travaux de Cosmic Roger vient de sortir chez Flic Glacial. C'est assez poilant, cartoonesque et des fois c'est assez sauvage et violent quoi. C'est de Mo et de CDM. Thomas, t'as l'album en main et.
Ah, j'ai bien rigolé là en feuilletant. Il y a une étiquette de vin à la fin, Château Petrux, 3057, appellation code de Krobs 3 contrôlé, mise en bouteille au spatiodomaine, 13% radioactivité.
C'est pas le seul délire d'ailleurs qu'ils se sont tapés loin de là, hein, il faut chercher partout, c'est complètement grave. C'est les mêmes qui avaient fait Area 51 et c'est dans le même genre de délire quoi.
Si l'audience souhaite d'ailleurs émettre des commentaires sur des albums que vous avez devant vous, n'hésitez pas, vous avez un micro pour vous.
Et un micro ORTF. Donc avec ça, vous pouvez le prendre et faire... Eh oui, Guy, eh oui, Guy.
Je ne vous entends plus.
Je ne vous entends plus, Guy. Ça fait exactement la même voix, voilà. Enfin bon. On va passer à littéralement autre chose par rapport à... On va changer d'océan, changer de genre. On va passer de la BD franco-belge aux comics de super-héros.
Ah,
The morceau de choix, comme on dit à New York. Il s'agit de Mark Wade et Lane Neal. Francis Yu, Superman, droit du sang, Bloodright. Non, Birthright, pardon, excusez-moi. Donc, droit du sang. C'est, ça vient de sortir dans la collection DC et traduit en français chez Panini Comics. Et c'est encore une variation sur le thème de la jeunesse de l'homme d'acier. Alors, je vous rappelle que Superman a connu plusieurs genèses. Il y a eu celle qui a été racontée en 1939-1940, celle qui a été contée en 1965, celle qui a été contée après en... Je crois qu'ils l'ont refait au début des années 80, mais à mon avis, je vais me planter. François Penaud, heureusement, ne peut pas appeler en direct. Et puis, il y a celle qu'on a découvert dans Smallville. Alors là, c'est assez intéressant parce que le look des personnages, on a l'impression qu'ils sortent un peu de la série Smallville. Sauf qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de différences par rapport justement à la série Smallville. D'abord, la première d'entre elles, c'est que Clark Kent, il est sorti de Smallville, mais en fait, il n'est pas rentré directement à Metropolis. Il a d'abord passé 5 années en tant que freelance pour apprendre le métier de journaliste sur le terrain. Et là, on le retrouve en plein milieu des guerres tribales qui se déroulent en Afrique. Et c'est là où sa vocation finalement de, au lieu de seulement raconter les événements, de pouvoir lui-même, en plus d'être témoin, d'influencer les événements vers un mieux, c'est là où il va l'apprendre en soi-même, du moins dans cette variation-là. Ensuite, il revient à Smallville pour retrouver ses parents parce qu'il les a pas vus depuis un certain temps. Et là, on se rend compte que Martha, sa mère, elle officie sous le pseudo de Area 52 dans les forums de ufologues. Donc elle a internet chez elle passe ses journées sur le net à regarder des phénomènes inexpliqués et tout ça, uniquement pour une chose, c'est pour avoir des nouvelles du fiston, quoi. Ah. Qui est parti dans le monde entier. Et à côté de cela, son père, lui, est par contre beaucoup plus bourru par la série. Il est plus terre à terre, c'est-à-dire qu'il n'est pas intéressé par rapport à ce que fait son fils. Il serait beaucoup plus intéressé s'il s'occupait des champs ou de la ferme. Il y a d'autres choses qu'on apprend aussi, c'est que Lex Luthor, lui, était un ami d'enfance avec qui il s'est brouillé par la suite. Sauf que Lex Luthor, il avait ses cheveux. On le découvre adolescent avec ses cheveux, puisqu'en fait, il n'a pas été pris dans une pluie de météorites, mais plus exactement, il est devenu à moitié fou suite à une expérience dans laquelle il a été à moitié défiguré et il a tué ses parents. Donc à partir de là, il y a quelque chose en plus qui se mêle, qui est beaucoup plus intéressant. Il y a aussi l'arrivée de Clark Kent, du coup il va postuler à Metropolis en tant que régulier dans la plus prestigieuse rédaction qui existe, le Daily Planet Online, qui est la meilleure agence d'information sur internet que même le New York Times lit, et c'est là où il va évidemment rencontrer l'amour de sa vie, Lois Lane. Donc forcément. Sauf que je l'ai trouvé un peu moins intéressant, honnêtement. Il y a des idées qui sont assez excellentes, c'est-à-dire qu'en fait, Clark Kent ne sait pas qu'il s'appelle Kal-El. Il ne sait pas. Il ne connaît. Il n'a aucune information vis-à-vis de son passé. Il a juste une espèce d'atlas vidéo dont il ne comprend absolument pas la langue. Et donc, en fait, il est complètement largué. Il a juste de belles images qui lui disent quelle était ta planète, mais il comprend pas la langue, il sait pas qui il est, il sait pas quel est son héritage, il sait juste qu'il y a un blason qui représentait à peu près quelque chose pour les autres. Donc là-dessus, c'est intéressant. C'est encore une variation, mais je veux dire, elle est beaucoup moins flagrante que la version Red Son, où Superman atterrit
en Ukraine,
en URSS dans les années 50, et où il est meilleur copain du petit père des peuples de Staline. Ça c'était beaucoup plus intéressant, je veux dire, c'était quelque chose de plus allumé, où il y avait encore plus de choses, où le personnage aussi de Lex Luthor était vraiment bien campé, où il arrive vous arrivez à quelque chose de vraiment étonnant. Là, je dirais, ça met beaucoup plus. On perd du temps en fait à essayer de rentrer dedans dans cette histoire. Et en fait, une fois qu'on est dedans, on se rend compte que Lex Luthor est un génie, mais c'est un taciturne. C'est-à-dire que, comme tout le monde se moque de lui, il ne s'intéresse pas à s'ouvrir aux autres. Et après, ben, il y a justement. C'est seulement vers le dernier quart du bouquin qu'on a ces images absolument superbes, comme le montrait Sabrina tout à l'heure.
Oui. D'ailleurs, à ce propos, Sabrina avait une remarque à faire.
Bah oui, non, vas-y. Bon. Si, si.
Non, je n'avais pas.
Si.
Non. Si.
Tu nous disais quelque chose d'incompréhensible, baragouiné, donc maintenant tu as le micro pour ça.
Zut. Non, j'étais tombée sur. Ouais, voilà, cette image. Ouais, Superman, super-héros, on dirait le Captain America. Avec un bouclier, avec le S, avec le gamin dans les bras.
Ouais, qui est en couverture, qui est vraiment une image forte. Et justement, c'est une image forte qui va être utilisée après dans la suite de l'histoire. Mais c'est vrai que c'est étonnant sur le côté allégorique qui intervient quand on ne l'attend pas. Alors que le début de l'histoire est vraiment très différent. Il y a une montée, mais le problème, c'est que cette montée est très très lente. C'est un petit peu dommage. Donc c'est. Dans Superman Droit du Sang, qui est donc une histoire complète, c'était paru en mini-séries aux États-Unis, et là on l'a en un recueil unique, donc c'est pas trop ruineux, donc c'est plutôt intéressant. Mark Wade et Lenin Francis Yu, dans la collection DC Comics, puisque c'était sorti aux États-Unis chez DC, traduit en France chez Panini.
Je crois que j'avais rien à dire.
Voilà, on a fait plutôt court, hein. 27 minutes là quand même sur la BD.
On va peut-être réussir à ne pas dépasser.
Ouais, ouais. Mais surtout qu'il n'y a pas du sport. Voilà, du sport, lui, elle a été tellement. On a dit oui, finalement elle se fait pas. Nous, c'est pour ça qu'on l'a faite finalement, parce qu'on avait préparé, c'était idiot. Lui, du sport, il a préparé. Il a dit bon, tant pis, je vais emmener les gamins là. Il y a les All Blacks. Et il y a du steak de roumain. C'est honteux de dire ça. Mais bon, c'est le rugby. Thomas.
Oui.
Sinoche.
Nous allons entamer la partie cinéma à présent.
D'accord.
Ah.
Le cinéma vous est présenté en différé, mais en Dolby stéréo surround cette fois-ci. Et oui, on enregistre en stéréo pour une fois.
Thomas, je te demandais de bomber le torse.
Ah, parce que tu viens de voir Superman.
Et oui.
Et lui, il boit moins de bière. Ou alors il en boit autant, mais ça se voit pas.
Je tiens à signer qu'une tradition de l'émission, c'est les combats de t-shirts, mais un jour on va faire les concours de bides. Hein,
voilà. Non.
D'accord.
Évitez notre. Non,
c'est pas très radiophonique non plus.
Non, pas trop. Alors, nous allons parler aujourd'hui de La Vengeance dans la peau, qui est le troisième épisode de la saga de Jason Bourne, et c'est réalisé par le metteur en scène du 2, Paul Greengrass, avec toujours Matt Damon, Joanne Allen, Scott Glenn, qui est bien frippé aujourd'hui, et Albert Finney. Et donc nous suivons les aventures toujours de l'ex-agent Jason Bourne, le fugitif qui prend contact avec un journaliste du Guardian qui enquête sur le projet Treadstone et sa mise à jour Black Briar. Il faut savoir que Jason Bourne donc, est le dernier représentant de ce fameux projet Treadstone mis en place par la CIA où il effectuait quelques missions, on va dire, pas recommandables. Les investigations du journaliste pourraient permettre à l'ancien agent de recouvrer justement la mémoire, car il faut dire qu'il est amnésique. Même les pontes de la CIA sont décidés à neutraliser Bourne par tous les moyens. Alors, donc le truc qui frappe en fait dans le 3, c'est que si vous avez vu la rediffusion du 2 à la télé il y a pas longtemps, c'est que c'est absolument la même trame.
C'est-à-dire tiens donc.
C'est-à-dire c'est la même trame, il se passe les mêmes péripéties dans le même ordre, avec les mêmes façons de les résoudre.
Est-ce donc, que le réalisateur serait-il en train de s'auto-parodier ?
Eh bien, je ne sais pas trop, parce qu'on peut voir qu'il y avait qu'il y a le contact entre Bourne et son informateur, il y a l'allié de Bourne qui est abattu par un sniper, tout ça. Bon, j'ai pas trop spoilé non plus le film. Alors, est-ce que tu as posé une bonne question ? Est-ce que le réalisateur s'auto-parodie ou est-ce qu'il est un peu flemmard ? En fait, pas du tout. Puisque moi j'ai trouvé ça, c'était un procédé scénaristique absolument extraordinaire, puisque en fait il prend la trame scénaristique du film, ce qui est incarné par Bourne, et qui veut essayer d'échapper à ce système de boucles qui n'en finit pas de se répéter. Est-ce que c'est un ex-agent, il a été conditionné pour aborder certaines situations avec de la même façon, etc. On le voit toujours effectuer les mêmes réflexes en entrant dans un lieu, communiquer de la même façon toujours, et ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement cohérent dans toute la série des Jason Bourne. Et justement le procédé narratif du 3, en étant très clairement calqué sur le 2, justement fait un écho à ce qui se passe dans le scénario, et ça c'est vraiment génial à mon sens. Puisque vous allez dire, oui, donc il y a la même poursuite, il atterrit dans la même glissière et tout. Sauf que, eh bien, cette fois, les rôles sont inversés. C'est. Ben oui, voilà, lui, il était le chasseur dans le 2, maintenant il est chassé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça va se répéter à l'infini ? Il y a la nana qui meurt dans le 2, eh bien, il a aussi une nana à protéger dans le 3, est-ce qu'il va commettre la même erreur ? Donc voilà, il y a aussi les mêmes pentes de la CIA, il y a les mêmes QG, etc. Tu te dis, à ce point-là. Ils prennent pas les gens pour des cons, mais tu dis, si t'es suffisamment attentif, tu dis qu'il y a un message caché, quoi. Et pour moi, le tour de force, effectivement, des deux derniers, puisque ça a été réalisé par le même gars, Paul Greengrass, et bien la dernière scène du 2, et bien elle est au milieu du 3. Elle ne s'intercale absolument pas entre le 2 et le 3. C'est une scène qui intervient dans le 3, et c'est une scène très 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 importante, puisqu'il vous donne des indices déjà à l'exacte fin du 2 de choses qui se passent très importantes dans le 3. Et justement quand on y est, ben voilà, on a l'impression d'avoir une sensation de déjà vu et de remake, et qui est un écho parfait à ce qui arrive à Bourne. Et alors moi j'avais fait un petit parallèle entre cette façon de mettre en scène le film et une certaine œuvre d'auteur d'un certain japonais qui s'appelle Hideo Kojima, qui avait œuvré là-dedans dans sa série Metal Gear. Et en fait, pourquoi j'y viens ? En fait, bizarrement, Metal Gear, en fait, on incarnait un personnage dont on ignorait tout, qui se mentait à lui-même sur son passé, qui était dans la...
Call me Snake.
Non, justement, pas Snake, c'est Raiden dans le 2. Metal Gear Solid 2, et justement la narration du jeu était parasitée justement par le scénario, puisque ça racontait l'histoire d'une caste qui dirigeait les États-Unis et qui essayait d'entretenir l'illusion sur une liberté fictive. Et
en fait, oui, le fameux complexe militaro-industriel.
Voilà, et qui te disait, en fait, tu n'es pas libre, puisque c'est nous qui régissons cette société. Et toi, joueur, tu n'es pas libre non plus, car au moment où on t'explique ça, tu ne vas pas jouer pendant une heure et quart. Tu vas te taper une heure de cinématique non interrompue, et ça, en fait, c'est le récit, le système de narration qui est parasité par l'histoire. Et c'est exactement ce à quoi on est témoin dans La Vengeance dans la peau, qui est pour moi le thriller des 10 dernières années, tout simplement. Les scènes d'action, alors effectivement, si vous êtes assez près de l'écran, si vous allez le voir au cinéma, bon, vous allez en prendre plein les yeux, vous avez vraiment début de migraine en sortant du film, car la caméra est autant mobile, mais pas mobile pour faire caméra à l'épaule, avec juste un petit bouger, c'est vraiment pendant les scènes d'action assez difficile de suivre les aventures des gars. Et même dans les scènes de dialogue, la caméra vraiment tu ne vois que ça, c'est bouger, et ensuite tu t'intéresses à ce qu'ils disent. Et justement, bon, évidemment ce système de réalisation caméra à l'épaule, et ben c'est un peu la marque de fabrique des films de guerre à la Soldat Ryan, mais beaucoup plus beaucoup moins vu dans les thrillers d'action. Et justement, ça permet effectivement de coller encore plus derrière Jason Bourne et dans sa fuite en avant. Et justement, le tour de force encore une fois du film, c'est pendant les scènes d'action, la caméra bouge beaucoup, mais curieusement on arrive clairement à identifier qui est qui est où, qui fait quoi, et donc voilà, c'est réellement impressionnant. Donc Sabrina, tu l'avais vu avec moi, je crois qu'on est que deux ici à avoir vu le 3, et puis voilà, on a pris la grosse claque. Voilà,
Sabrina, peut-être hein. tu as quelque chose à dire sur La Vengeance dans la peau?
Nothing.
Nothing.
Merci Sabrina.
Merci. Alors juste une question. Oui. Juste une question parce que tout à l'heure je voulais enchaîner à propos de Valérian sur le dessin animé. Mais bon, il n'est pas encore diffusé en France.
Je te vois venir.
Mais on parle quand même d'une célèbre œuvre franco-belge qui a tout pompé sur le roman originel, La mémoire est dans la peau. Une œuvre de William Vance au dessin qui lui n'y est pour pas grand chose et qui a très mal pris justement quand il a vu le premier téléfilm celui des années 70. Adapté du roman quand il a vu que ça collait pile poil avec le premier tome du scénario de Jean Van Hamme, puisqu'il s'agit de 13, puisque toute la première partie, le premier tome en fait, est littéralement pompé du roman Le jour du soleil noir, si je me souviens bien du premier tome. Alors, une question: quand toi tu as lu 13,
oui,
Est-ce que tu as eu le même trip par rapport justement au film, c'est-à-dire le trip sur la partie recherchée, poursuivie et le mystère, ou finalement le film jouant plus sur l'adrénaline et sur les mouvements, ça permet d'éviter qu'il y ait un scénario finalement qui est vu et revu?
Alors le film justement prend ses aises par rapport à la recherche d'identité de Bourne, même si ça fait la trame scénaristique à chaque épisode, mais 13 est beaucoup plus sur la recherche du passé du personnage, puisque dans chaque tome il va se découvrir un nouveau nom, en fait, qui va être annulé par le tome suivant, et on suit vraiment toutes les scènes d'action de 13. En fait, c'est la recherche pure et dure du personnage de 13 sur sa véritable identité, alors que Bourne, lui, il est plus dans le souci d'échapper à des gens qui en veulent à sa peau, à essayer de protéger les gens qu'il aime. C'est plus dans cette optique là même si dans le 3 ça résout pas mal de questions et répond à beaucoup de questions effectivement sur son passé, puisqu'il y a aussi une tournure et puis une procédure de mise en scène qui est absolument géniale dans les flashbacks du 3. C'est que depuis le début on te montre une scène qui revit en flashback et tu t'aperçois à la fin qu'il y a un tout autre éclairage, et en fait rien ne semblait être ce qui s'est passé réellement. C'est à dire qu'à la fin, mais ah merde, ce flashback là ça voulait dire ça, lui c'était pas vraiment le personnage qu'on voyait dans son flashback, et est-ce qu'il s'est peut-être menti à lui-même aussi, effectivement. Bon, le flashback à la fin quand il est révélé, franchement dans le film tu t'en fous parce que tu vas voir le film pour avoir du thriller d'action, et puis c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, c'est plus un tour de force de mise en scène plutôt qu'un tour de force en disant voilà, attention, le cliffhanger final, Bourne il a retrouvé son passé, tu t'en fous complètement quoi. À la fin t'es juste lessivé par tout ce que tu viens de voir, par les scènes d'action qui sont dantesques, les poursuites à Tanger qui sont ébouriffantes, voilà. Donc c'est pour ça que la saga 13 et la saga de Jason Bourne sont assez différentes finalement dans la forme.
Tu attends avec impatience le dernier tome de 13 qui sort le 13 novembre ?
Bah, j'ai 3 tomes de retard, je crois. Je m'étais arrêté au 14.
Et tu finalement t'aurais aimé ? Non. Non, puisque c'est le prochain, c'est le dernier.
Le 13, c'était l'enquête. Hein.
Ouais.
Il y a eu un suivant, Lâcher les chiens. Il y en a eu un autre après que j'ai pas lu.
Mmh.
Donc on en est au 15, je pense.
Ouais. Et finalement, t'aurais préféré arrêter la série 13 à quel tome ?
Il y a très longtemps en tout cas, au moment où il sort de la jungle, de la espèce de guérilla en Amérique du Sud.
Moi je l'aurais arrêté juste un peu avant, à 13 contre 1.
Alors 13 contre 1, oui, je me souviens plus exactement, mais c'est là, de toute façon il nique encore avec le Major.
Voilà. Bravo, voilà, c'est malin.
Donc voilà, il s'agissait de La Vengeance dans la peau, dernier épisode de la trilogie Jason Bourne, constitué de la mémoire dans la peau, la mort dans la peau, et cette fois-ci La Vengeance dans la peau. Et c'est toujours réalisé par Paul Greengrass avec Matt Damon. Et puis voilà, c'est un excellent thriller d'action qui propulse le cinéma justement d'action et qui ridiculise totalement la franchise James Bond. Et même Casino Royale, ils ont intérêt vraiment à pousser le bouchon encore plus loin dans le prochain, sinon ils se font mais rétamer leur gueule, mais comme c'est pas permis.
Thank you.
Voilà, on refait le gag encore une fois du ça discute largement plus voilà, hors antenne. Oula, excusez-moi.
Les conversations sont beaucoup plus intéressantes en off.
C'est un grand classique. Excusez-nous moi si ça claque un peu dans vos oreilles quand on rit et tout, mais on a un petit problème.
Donc nous étions en train de disserter autour de la franchise James Bond. On se disait effectivement, est-ce qu'on peut raisonnablement apprécier un James Bond après être sorti de la saga Jason Bourne?
Oui, bon, c'est un peu des films d'action pour vieux, mais bon, il y a quand même eu des James Bond pas si mauvais que ça. Enfin, celui avec Madonna où au début il en chie quand même pas mal, c'est vrai qu'il se dénotait un peu du reste. Enfin, ça.
Et oui, et nous, rappelons-nous que dans ce fameux épisode, eh ben, il y a la voiture invisible.
Oui, ben, très utile. Il y a eu beaucoup de budget pour pas grand chose, vu qu'il aurait suffi de la peindre en blanc, puisque si je me souviens bien, ça se passe dans la glace,
Nord,
ouais, dans le Grand Nord à la fin.
Ouais.
Ah oui, mais voiture invisible, mince, avec le budget KQ.
Ouais, fait le budget.
Non, mais c'est vrai que c'est ridicule.
Mais c'est justement une idée de transition tout à fait saisissante, puisque nous pouvons également parler du film inspiré de K2000.
Qui va arriver, ouais.
Qui va arriver, qui a été relaté sur certains sites internet.
Sur un peu partout, hein. Oui. Tout le. Enfin, c'était ça où vous parliez de William Lémergie, mais.
À l'étrangleur. L'étrangleur voilà, de France 2.
Mais K2000, là, je ne sais pas. On ne sait pas si c'est toujours David Hasselhoff qui jouera dedans, sachant qu'il a toujours insisté pour que chaque fois qu'il y a eu un téléfilm revival, ce soit lui qui joue dedans. Il y a eu deux séries qui avaient continué en fait. Hein, après là, c'est du sport normalement qui est le grand spécialiste et qui pourra en parler.
C'est surtout l'oreillette.
Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que comment dire, David Hasselhoff là maintenant qui joue, enfin The Off comme on dit, qui joue maintenant dans une séquelle autour de K2000.
Non, il joue dans une séquelle autour de Alerte à Malibu qui s'appelle Mitch Buchanan. Ce n'est pas pareil.
Oui.
Voilà.
Où le jour, il va secourir les ados prépubères qui ne savent pas nager. Et la nuit, il est détective pour se faire un petit peu d'argent.
Oui,
c'est
vrai
qu'il date longtemps, hein, Buchanan.
Oui, elle est certainement plus diffusée aujourd'hui. Mais...
Non, c'est sûr. Certes. Ça fait moins 5 ans que je n'ai pas vu.
Donc toujours deux films autour de David Hasselhoff, K2000 et Alerte à Malibu qui, espérons-le, ne verra jamais le jour. C'est passionnant.
C'est super, c'est magnifique. Je crois que dans ce cas-là, on va terminer sous la condition express.
Remarque, je pense que tu préférais pas mal Anderson.
Ah non, pas du tout. Elle m'a jamais fait kiffer cette
c'était
nana.
C'était Yasmine.
Non, pas du tout. C'était comment elle s'appelait l'autre? C'était Erika Eleniak, qu'on peut voir d'ailleurs dans Piège à haute mer avec Steven Seagal.
Ça, je ne veux pas savoir. Je viens de lancer.
Qui sort les seins à l'air d'un gâteau d'anniversaire.
Toi, tu vas dormir dehors.
Comment?
C'est Steven qui sort?
Non, c'est la blondasse.
Oui,
non, mais je crois qu'on va tous sortir. Étonnamment, donc, pour ce supplément week-end du samedi 29 septembre 2007, qui ne s'est pas déroulé en direct à l'antenne, mais dans les conditions du direct, comme à la maison. Étonnamment, le chat nous avait pas balancé dedans. Attends,
on avait fermé la porte.
Ouais, elle est pas sur le PC. Oui, c'est vrai qu'on avait fermé la porte, mais à mon avis, on pourrait vous parler aussi de Heroes saison 2, on vient de voir le premier épisode.
Eh bien, oui. Eh bien, on peut rien dire trop puisqu'on
vient de lancer le générique de fin.
Et puis on veut pas trop spoiler non plus. Sachez, Manu, de façon Manu, qu'il y a un célèbre acteur pour certains qui s'intéressent aux séries de J.J. Abrams.
Oui, il y a un personnage qui joue quelqu'un dont on ne s'attend pas. Comment dire
Il arrive toujours au même moment, lui.
Voilà. Donc voilà. Sachez que après le personnage de Matt Parkman, il y a également un autre acteur de Alias qui joue dedans.
Voilà.
C'est un rôle très important.
Tu crois qu'on a fini le sujet? Attention, hop, je relance la musique. Voilà, c'était le supplément week-end.
Attends, tu vas pas commencer parce qu'on n'a pas de planning à annoncer après.
On n'a pas de planning, mais en tout cas, on espère la semaine prochaine être à l'antenne sur Radio Éphémère. Peut-être ailleurs, je n'en sais rien encore pour l'instant. En tout cas, si vous voulez, n'hésitez pas à participer. Si vous avez entendu cette émission, Ah bah c'est que vous connaissez forcément le site internet de l'émission, suppléments-weekend.tk. N'hésitez pas, il y a les chroniques de Thomas, les miennes, vous pouvez intervenir dedans. Du sport, normalement, sera de retour la semaine prochaine et on aura fini d'être vexé. Et puis, sinon...
Non, il ne boude pas, non.
Voilà, c'était... Je remercie une fois de plus la complicité de tout le monde. Merci de nous avoir bien aidés. Oui, Manu d'être passé. Chantal et Sabrina pour la tambouille. Ah oui, bah c'est comme Chantal à la maison, ben bah oui, forcément.
Qui est devenu enflammé.
Okay. Hein ? Ah bah, c'est vrai.
La groupie,
allons. Allez, ciao, bye. Rendez-vous la semaine prochaine, peut-être sous de meilleurs auspices. Et on n'a jamais fait aussi court, c'est-à-dire 45 minutes.
Eh ben.
Si, je crois qu'on a fait plus court, il y a eu 20 minutes une fois. Voilà. Ciao, bye bye.
Ciao.
Et juste pour vous annoncer, puisqu'on ne pourra pas le faire en direct, en temps réel, et c'était ce qu'on avait prévu comme invité en plus cette semaine, et ben donc le 6 et le 7 octobre prochain, c'est à Toulouse, je tiens à le signaler, pour ceux qui nous écoutent internationalement, il y a un festival de la bande dessinée au profit des enfants handicapés, c'est à la salle Mermoz, c'est en face du stadium, avec la présence de Fred Coconut, Richard Di Martino, Gobi, Hugues Labiano, Jérôme Le Reculé, Simon Léturgie, Jean-Luc Masbou, Marthe Guessant, Alexis Antenac, Turf, Ulcer et tout plein d'autres. L'entrée est gratuite, c'est 10h à 19h, donc le 6, samedi 6 et dimanche 7 octobre. Sachant que le principe, hein, tout simplement, si vous venez pour vous faire dédicacer un album, il faudra verser une somme. Donc ce sera 1€ si vous allez à la dédicace minimum, vous pouvez donner largement plus. Et c'est reversé au profit de l'association Kiwanis International, qui s'occupe des enfants handicapés, notamment dans le tiers-monde. Et à noter qu'il y aura une mise aux enchères de planches originales qui seront présentes. Il y a du ZEP, il y a du beau monde, donc ils seront présents. Donc allez-y, si vous êtes sur Toulouse, ce sera très sympa. Voilà. Ciao, bye bye, à plus.